Notes supplémentaires sur les Druedain. Mon père se donna beaucoup de mal pour souligner la différence radicale entre les Druedain et les Hobbits. Ils étaient fort dissemblables de forme et d'apparence physique. Les Druedain étaient plus grands et plus lourds et trapus. Ils étaient peu plaisants de traits, selon les critères qui ont cours parmi les hommes. Et alors que les Hobbits avaient une abondante chevelure, mais drue et bouclée, les Druedain n'avaient que quelques mèches ternes et peu fournies sur le crâne et aucun poil sur les jambes et les pieds. Ils étaient par moments joyeux et gais, comme les Hobbits, mais leur nature avait une composante plus sombre, et ils pouvaient être narquois et impitoyables. Et ils possédaient, ou du moins on leur imputait, des pouvoirs étranges ou magiques. Au demeurant, c'étaient des gens économes, mangeant peu, même en période d'abondance, et ne buvant que de l'eau. Par certains côtés, ils ressemblaient plutôt aux nains. Par la carrure, la stature et l'endurance, par leur habileté à tailler la pierre, et aussi par le côté noir de leur tempérament et par leur mystérieux pouvoir. Mais les pratiques magiques attribuées aux nains étaient de toute autre nature, et les nains étaient plus sombres encore de disposition et ils jouissaient d'une grande longévité, alors que comparés à tous les autres peuples d'hommes, les Druedain avaient une vie très brève. Une fois seulement, dans une note isolée, trouve-t-on quelque chose d'explicite concernant les rapports entre les Druedain du Beleriand au Premier Âge, qui protégeaient les demeures du peuple de Haleth dans la forêt de Brethil, et les lointains ancêtres de Gan Buligan, qui guida les Rohirrim le long de la vallée des Fardiers sur le chemin de Minas Tirith, le retour du roi 5-5, ou les auteurs de statues de pierre qui jalonnaient la route de Dunhart, le retour du roi 5-3. La note précise: une branche d'émigrants Druedain accompagna les gens de Haleth à la fin du Premier Âge et séjourna avec eux dans la forêt de Brethil. Mais la majeure partie d'entre eux restèrent dans les montagnes blanches, en dépit des persécutions qu'ils eurent à subir aux mains des hommes qui y étaient parvenus plus tardivement et qui étaient retombés au service des ténèbres. Il est dit aussi ici que la relation entre les statues de Dunhart et les vestiges des Druath, perçus d'emblée par Meriadoc la première fois qu'il posa les yeux sur Gan Buligan, était reconnue dès l'origine au Gondor, bien qu'à l'époque de la fondation du royaume Númenoréen par Isildur, les Druedain qui avaient survécu se trouvaient uniquement dans la forêt de Druadan et en Drunweth Ior. Nous pouvons donc, à notre gré, broder sur l'ancienne légende de la venue des Edain telle qu'elle est donnée dans le Silmarillion, en y ajoutant les Druedain qui, descendus des Ered Lindon, auraient gagné l'Ossiriand en compagnie des Haladin, les gens de Haleth. Selon une autre note, les historiens du Gondor croyaient que les premiers hommes à franchir l'Anduin avaient été, en fait, les Druedain. Ils venaient, croyait-on, des terres situées au sud du Mordor, mais ils prirent au nord, par l'Ithilienne, avant d'atteindre les côtes du Haradweth, et trouvant éventuellement un moyen de passer l'Anduin, probablement dans les parages de Caer Andros, s'établirent dans les vallées des montagnes blanches et dans les terres boisées, sur les versants septentrionaux des montagnes. C'était un peuple furtif, méfiant envers les autres hommes, ceux-là qui, de mémoire de Druedain, les avaient harcelés et persécutés. Et ils étaient partis vers l'ouest, à la recherche d'une contrée où ils pourraient vivre cachés aux yeux du monde et en paix. Mais rien de plus n'est dit, ni là, ni ailleurs, sur les origines de leur association avec le peuple de Haleth. Dans une étude citée plus haut, portant sur les noms des rivières de la Terre du Milieu, on obtient un aperçu des Druedain au deuxième âge. On y lit que les peuplades indigènes de l'Enedweth, fuyant les dévastations commises par les Númenoréens en remontant le cours du Guathlo, je cite, « ne franchirent pas l'Isène, ni ne se réfugièrent-ils sur le grand promontoire entre l'Isène et le Lefnui, qui dessine la branche nord de la baie de Belfalas, et cela en raison des hommes Pouks, qui était un peuple secret et redoutable, chasseur acharné et silencieux, usant de flèches empoisonnées. Ils disaient qu'ils avaient toujours vécu là, mais qu'autrefois ceux de leur peuple habitaient aussi dans les montagnes blanches. Ils ne s'étaient point soumis dans le lointain passé au grand ténébreux, Morgoth, et ne s'allièrent point non plus par la suite à Sauron, parce qu'ils haïssaient tous les envahisseurs venus de l'Est. Car de l'Est, disaient-ils, survinrent les hommes de haute stature qui les chassèrent des montagnes blanches, et c'étaient des hommes au cœur mauvais. Il se peut que même à l'époque de la guerre de l'anneau, certains du peuple Drou aient subsisté dans les montagnes de l'Andraste, les contreforts occidentaux des montagnes blanches, mais seuls les survivants qui hantaient les bois d'Anorienne étaient connus des gens du Gondor. Cette région entre l'Isène et le Lefnui était la Drouet Ior, et dans un autre fragment sur ce sujet, il est précisé que le terme Ior, vieux, signifie dans ce contexte non pas premier, mais ancien. Les hommes Pouk occupaient les montagnes blanches, sur les deux versants, au premier âge. Lorsque commença au deuxième âge l'invasion des terres côtières par les Numénoréens, ils survécurent dans les montagnes du promontoire de l'Andraste, qui ne furent jamais occupées par les Numénoréens. Un autre groupe subsista à l'extrémité orientale de la chaîne, en Anorienne. À la fin du troisième âge, on devait prendre ce dernier groupe, très réduit en nombre, pour les ultimes survivants. D'où le nom donné à l'autre région où ils avaient séjourné, ancienne terre sauvage des Pouk, Drouaith Ior. Et une terre sauvage, elle demeura, où ne vinrent s'établir ni les hommes du Gondor, ni ceux du Rohan, et où rares même étaient ceux qui s'y aventuraient. Mais les hommes de l'Anphalas croyaient qu'y vivaient encore secrètement quelques-uns des anciens hommes sauvages. Mais au Rohan, on n'identifiait pas les statues de Dunhart, dites hommes Pouk, aux hommes sauvages de la forêt de Druadan, ni ne reconnaissait-on leur humanité. D'où ce que dit Gan Bourigan au sujet des persécutions qu'auraient subies par le passé les hommes sauvages aux mains des Rohirrim. Vous laissez hommes sauvages tranquilles dans les bois sans plus les chasser comme des bêtes. Gan Bourigan, qui s'efforce ici à employer le parler commun, dénomme son peuple, non sans ironie, hommes sauvages. Bien entendu, tel n'était pas le nom qu'ils se donnaient entre eux.